Chapitre 27. Le chapitre 27 des Actes, vu sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 27. Des Actes n'est pas simplement un récit de l'expérience de naufrage qu'a subi Paul. Ce chapitre est une histoire grandiose, montrant comment une personne qui possède l'évangile déjà accompli de l'eau et de l'esprit fait confiance et témoigne de la souveraineté absolue et de la promesse de Dieu, même au milieu de situations de crise extrême qu'elle ne peut contrôler par sa propre force. Le récit de navigation urgente de ce chapitre nous témoigne de ce à quoi s'accroche et comment se tient une personne dont le problème du péché et du jugement a déjà été résolu pour toujours devant le carrefour de la vie et de la mort. Actes, chapitre 27, versets 1 à 8, le début du voyage, sur l'évangile marchant sur le chemin de la mission, non pas un chemin sûr. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient l'un contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Lorsqu'il est décidé que Paul doit aller en Italie, il est remis à un homme nommé Julius, un centenier de la cohorte Auguste, avec quelques autres prisonniers, et monte à bord d'un navire. Alors qu'ils commencent le voyage, ils avancent lentement pendant plusieurs jours et le vent ne le permet pas, de sorte qu'ils arrivent à peine à un endroit appelé Beauport, ce qui montre que la volonté de Dieu ne signifie pas nécessairement seulement un vent arrière favorable. L'évangile de l'eau et de l'esprit garantit pour toujours le salut de l'âme. Mais il ne rend pas toujours le voyage de la chair confortable. Parce que Paul avait déjà obtenu l'élimination du péché et la vie éternelle par le baptême et la croix de Jésus, ce qui restait maintenant n'était que le voyage de la mission pour témoigner de ce fait à Rome. Actes, chapitre 27, versets 9 à 12, l'avertissement de Paul sur le discernement du Saint-Esprit allant au-delà de l'expérience du monde. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Parce que la période du jeûne était déjà passée, rendant la navigation dangereuse, Paul les avertit en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Ce n'était pas une simple supposition, mais un discernement spirituel venant de l'intérieur du Saint-Esprit. Cependant, la Bible rapporte que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Le monde essaie toujours de faire confiance au jugement visible des experts et à l'expérience humaine plutôt qu'à la promesse de Dieu, mais le témoin de l'Évangile voit la vérité au-delà de la situation. Actes, chapitre 27, versets 13 à 20, le vent impétueux, Euraquilon, sur le moment où tout contrôle humain annonce sa fin, un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Lorsqu'un léger vent du sud a soufflé, se croyant maîtres de leur dessein, ils ont levé l'ancre et ont continué à naviguer. Mais peu de temps après, un vent impétueux appelé Euraquilon s'est déchaîné fortement depuis le milieu de l'île. Lorsque le navire a été entraîné par le vent et n'a pas pu y faire face du tout, ils ont jeté la cargaison par-dessus bord dans la mer et ont même jeté les agrès du navire. La description, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Montre symboliquement à quel point la compétence et la sagesse humaine sont impuissantes pour garantir la vie. Ce lieu de désespoir, où tout sens de l'orientation a disparu, devient la scène, prouvant que seule la parole de Dieu devient l'unique voie. Actes, chapitre 27, versets 21 à 26, les paroles de l'ange sur l'accomplissement de la promesse de Dieu surpassant le désir de survie. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera, comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Se tenant au milieu de la multitude qui n'avait pas mangé depuis de nombreux jours et était tombée dans le désespoir, Paul déclare en disant « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Il transmet que la nuit dernière, un ange de Dieu s'est tenu près de lui et a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Ce faisant, Paul confesse, « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » C'est le centre de celui qui possède l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et cela montre le fait que le but du salut est plus grand que la crise humaine. Actes, chapitre 27, versets 27 à 32, la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine sur l'évangile de l'obéissance, non pas de la négligence. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. La 14e nuit de navigation, les matelots soupçonnent que le navire s'approche de la terre et essaient de s'échapper pour se sauver eux-mêmes uniquement. À ce moment-là, Paul avertit le centenier et les soldats en disant « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés » et les arrête. Cela signifie que la promesse souveraine de Dieu ne justifie pas la négligence irresponsable de l'homme. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une résignation fataliste, mais établit un ordre de foi vivante qui fait que l'on remplit ses responsabilités respectives dans le lieu présent parce que l'on croit à la promesse de Dieu. Actes, chapitre 27, versets 33 à 38, Paul rompant le pain sur l'ordre de grâce, établi dans l'ombre de la mort. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâces à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous reprenant courage mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent de manger suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Alors que le jour est sur le point de paraître, Paul implore la multitude de prendre de la nourriture, en disant « Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Et il est rapporté, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Ce repas pris par Paul dans la situation extrême juste avant le naufrage n'était pas un simple repas mais un acte saint contaminant tout le monde avec la paix et l'ordre de grâce de celui qui a déjà obtenu l'élimination du péché que même la menace de la mort ne pouvait ébranler. Actes chapitre 27 versets 39 à 44, le naufrage et le sauvetage de tous sur la promesse accomplie de la manière déterminée par Dieu. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient à nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Lorsque le navire est poussé vers un endroit où deux courants se rencontrent et s'échouent, la proue s'engage et devient immobile, et la poupe est brisée par les grosses vagues. Les soldats essaient de tuer les prisonniers, mais le centenier, voulant sauver Paul, les arrête et ordonne à ceux qui savent nager de se jeter les premiers à l'eau. La conclusion est aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs, montre que la promesse de Dieu s'accomplit parfaitement non pas par le chemin apparemment le plus sûr auquel les humains s'attendent, mais par le processus de raffinement déterminé par Dieu. En conclusion, le chapitre 27 des Actes témoigne que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une formule magique, mystique, qui supprime la tempête, mais une ancre inébranlable qui confirme la direction à prendre même au sein de la tempête. Celui qui a la conviction du salut exerce un discernement audacieux au sein d'une crise. Et la promesse de Dieu s'accomplit nécessairement au-delà des limites humaines. La volonté de Dieu n'est pas simplement de protéger l'environnement extérieur appelé le navire, mais de protéger son peuple et sa mission. Le chapitre 27 des Actes est une histoire prouvant le fait que celui qui possède le salut accompli se tient au centre de la communauté, s'accrochant à la promesse de Dieu dans n'importe quel vent impétueux. Un sermon de Paul Sijong. La parole du chapitre 27 des Actes, versets 1 à 44, est un récit montrant de manière vivante avec quoi l'Évangile sauve les gens au milieu d'une tempête massive. En lisant ce texte du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul Sijong, ce voyage de navigation n'est pas une simple technique de survie ou une leçon sur la façon de surmonter une crise, mais devient un sermon puissant sur la façon dont une personne qui connaît le salut déjà accompli s'accroche à un centre inébranlable au milieu d'une confusion extrême. Dans le processus où Paul était escorté vers Rome, il a prévu que le voyage serait dangereux et a averti que cette navigation ne se ferait pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour leurs personnes, mais le centenier a écouté le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Cela montre la réalité où l'expérience humaine et l'opinion de la majorité précèdent de parfois la voix de Dieu, mais l'évangile de l'eau et de l'esprit nous éveille au fait que la norme du salut doit au moins être placée non pas sur le jugement humain mais sur le fait que Dieu a déjà accompli. Lorsqu'un léger vent du sud a soufflé, se croyant maître de leur dessein, ils ont levé l'ancre et ont navigué, mais peu de temps après, un vent impétueux appelé Euraquilon s'est déchaîné fortement depuis le milieu de l'île et le navire a été entraîné et n'a pas pu faire face au vent. Lorsque ni le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours et que la grande tempête persista et que même toute espérance de salut eut complètement disparu, les gens jetèrent la cargaison par-dessus bord et jetèrent les agrès du navire de leurs propres mains, luttant désespérément pour leur survie. Une telle crise extrême montre à quel point les choses sur lesquelles les humains s'appuient habituellement s'effondrent facilement, mais l'évangile de l'eau et de l'esprit dit que l'espérance du salut est fondée sur un événement historique et non sur une situation. C'est parce que l'événement éternel selon lequel Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement de ses péchés sur la croix et que le Saint-Esprit en a témoigné est la réalité du salut qui ne peut être effacée par aucune tempête du monde. Lorsque tout le monde désespérait et ne mangeait pas, Paul s'est tenu au milieu d'eux et a proclamé « Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. » Il a confessé « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Cette assurance ne provenait pas d'un optimisme vague, mais d'une confiance absolue dans la promesse de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit fait que l'on domine la peur présente en prenant comme base le salut déjà achevé et fait que l'on est convaincu que la vie promise par Dieu sera préservée même si le navire est brisé. La 14e nuit, lorsque les matelots ont soupçonné qu'ils s'approchaient de quelque terre et ont essayé de s'échapper en mettant la chaloupe à la mer pour survivre, Paul a averti le centenier et les soldats, disant que si ces hommes ne restaient pas dans le navire, ils ne pourraient être sauvés. Alors que le jour était sur le point de paraître, Paul a exhorté la multitude à prendre de la nourriture, disant « Car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Et il a pris du pain, a rendu grâce à Dieu devant tout le monde et a commencé à le rompre et à le manger. La raison pour laquelle il a pu offrir un culte d'action de grâce, même si la tempête ne s'était pas encore complètement arrêtée, était parce que la conclusion du salut avait déjà été confirmée. Une personne qui sait que la puissance du péché et de la mort a déjà pris fin obtient une nouvelle force pour pouvoir manger la nourriture de vie et se relever même au milieu de la tempête. Lorsque le jour s'est levé, ils ne savaient pas de quelle terre il s'agissait, mais ont découvert un golfe avec une plage et ont décidé d'y faire échouer le navire. Mais rencontrant un endroit où deux courants se rencontrent et s'écoulent, le navire s'est échoué. La proue s'est engagée et n'a pas pu bouger. Et la poupe a été brisée par les grosses vagues. Les soldats ont pensé qu'il valait mieux tuer les prisonniers, craignant qu'ils ne s'échappent à la nage, mais le centenier, voulant sauver Paul, a arrêté leur intention et a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à la mer et de gagner la terre. En faisant en sorte que les personnes restantes sortent en s'appuyant sur des planches ou des parties du navire, finalement tout le monde a débarqué et a été sauvé. Cette conclusion, où le navire a été brisé en morceaux, mais où les gens ont survécu sans qu'il n'en manque un seul, montre exactement la structure de l'évangile selon laquelle, même si les moyens humains sur lesquels nous nous appuyons sont brisés, la vie promise par Dieu demeure. En conclusion, le chapitre 27 des Actes nous enseigne que bien qu'une tempête puisse détruire les calculs méticuleux humains, elle ne peut jamais détruire la promesse de Dieu. Quel que soit le navire de notre vie, il peut être brisé un jour, mais notre vie sécurisée par le baptême et la croix de Jésus-Christ n'est jamais détruite. La personne qui connaît cet évangile de l'eau et de l'esprit, selon lequel Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement sur la croix et que le Saint-Esprit le confirme, n'est pas submergé par la peur tout en ne niant pas la puissance de la tempête. À l'instar de la confession de Paul, « Il en sera comme il m'a été dit », nous devons nous aussi traverser la tempête de la vie en faisant confiance à la promesse de Dieu jusqu'à la fin au sein du salut accompli. Questions et réponses sur le chapitre 27 des Actes. Première, comment le but de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à Rome s'est-il accompli dans la situation de détresse que l'apôtre Paul a subie dans tout le chapitre 27 des Actes? La crise du vent impétueux, Euraquilon et du naufrage que Paul a subi dans le chapitre 27 des Actes est un processus dramatique montrant comment l'évangile de l'eau et de l'esprit avance nécessairement vers le centre du monde appelé Rome en dépassant les limites humaines. La raison pour laquelle Paul a pu maintenir la paix jusqu'à la fin et encourager les gens même dans cette situation de détresse n'était pas simplement en raison d'une personnalité positive, mais parce qu'il avait la conviction d'un juste qui s'est réconcilié avec Dieu en conséquence du transfert de tous ses péchés par le baptême de Jésus. Pour Paul, dont le problème du péché était résolu, la tempête n'était pas un désastre menaçant sa vie. mais plutôt une chair massive, préparée pour témoigner de la vitalité de Dieu et de l'évangile du salut aux 276 soldats et matelots qui se trouvaient dans le navire. La méthode spécifique par laquelle le but de l'évangile s'accomplit dans ce chapitre réside dans le fait de montrer le modèle de la rédemption à travers la vie. Lorsque tout le monde a perdu l'espoir de vivre et a cessé de manger et de boire, Paul proclame « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est comme si l'on montrait visuellement le principe de la rédemption selon lequel, lorsque l'humanité mourait dans la mer du péché, Dieu a transféré tous les péchés de l'humanité sur une seule personne, Jésus-Christ, par le baptême, et nous a tous sauvés par le sacrifice de cette seule personne. L'événement où la vie de tous ceux qui étaient à bord du navire a été préservée à cause d'une seule personne, Paul, a été un signe puissant leur faisant goûter à l'avance la vitalité que possède l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus-Christ sur le chemin menant à Rome. En fin de compte, la détresse du chapitre 27 n'est pas devenue un obstacle à la propagation de l'évangile, mais un canal montrant comment le royaume de Dieu triomphe face à l'empire massif appelé Rome. L'acte où Paul a pris du pain, a rendu grâce et l'a partagé à l'intérieur du navire n'était pas un simple repas mais un festin spirituel partageant l'évangile de vie avec ceux qui se tenaient devant la peur de la mort. À travers ce processus, Paul s'est imprimé dans l'armée romaine et chez les païens, non pas comme un simple prisonnier, mais comme un homme de Dieu. Et cela lui a fourni une base spirituelle et sociale pour prêcher librement l'évangile même dans un état d'assignation à résidence lorsqu'il est arrivé à Rome. Dieu, qui a raffiné la pureté et la puissance de l'évangile à travers la tribulation, a finalement utilisé même la tempête comme un vent fort, portant l'évangile de l'eau et de l'esprit droit au cœur de Rome.